certains territoires cumulent trop de handicaps, trop de difficultés. Des territoires confrontés à la violence et au trafic, aux racines des événements que nous venons de vivre, il y a évidemment cette situation.
Le président Chirac, celui dont le poster trône en majesté au-dessus du bureau de notre rédacteur en chef gaulliste Cyril Lacarrière, c'était le 14 novembre 2005.
C'est vrai.
18 jours après la mort des deux ados Ziad Benna et Bouna Traoré à Clichy-sous-Bois, une prise de parole présidentielle qui aurait été très longue à venir alors que les banlieues françaises vivaient des émeutes sans précédent. Bonjour Nora Hammadi.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Zoom Zoom cet après-midi. Vous êtes journaliste, spécialiste des questions européennes, à la tête depuis la rentrée de la revue de presse de France Inter dans la matinale juste avant 9h. Un poste dont Quentin, ici présent, estimait qu'il lui revenait de droit. On y reviendra. Mais si on vous invite cet après-midi, c'est pour votre livre La Maison des Rêves, publié chez Flammarion. Vous y racontez notamment votre enfance à Longjumeau dans l'Essonne. C'est aussi une enquête sociale, 20 ans jour pour jour après la mort de Ziad Benna et Bouna Traoré à Clichy-sous-Bois. Est-ce que la banlieue a changé? Si oui, comment? Vous allez nous livrer votre point de vue, votre ressenti. Mais déjà, on peut revenir sur cette prise de parole tardive de Jacques Chirac. Il avait annoncé la création du service civique volontaire. Le chef de l'État qui parle d'une crise de sens, d'une crise de repères et qui dit aux jeunes Français qu'ils sont tous les fils et les filles de la République. Vous en aviez pensé quoi à l'époque et vous en pensez quoi aujourd'hui ?
À l'époque, j'avais trouvé ça évidemment tardif. Je m'étais dit qu'après 3 semaines de révolte, mais on pourra revenir sur le terme émeute, révolte, violence urbaine.
Vous dites révolte.
Moi, je dis révolte puisque, bien entendu, il y avait une dimension politique, même si on a souvent dénié au quartier populaire le droit d'avoir une conscience politique. Mais on y reviendra si vous le souhaitez. Ça arrive tard. Ça arrive aussi après le déclenchement de l'état d'urgence, un déclenchement qui n'avait jamais eu lieu sur le territoire français depuis la fin de la guerre d'Algérie. Donc le symbole était quand même très fort, mais il a eu ces mots. Les fils c'est et les filles ça. De la République. Il y avait quand même quelque chose et c'est là qu'on se rend compte que la droite quand même a changé. Glissé si je puis dire. Je me souviens aussi des mots de Jean-Louis Debré qui était maire d'Evreux qui parlait dans cette veine de gaullisme social de la nécessité d'entendre en fait le cri de désespoir de ces gamins de quartier populaire et que ça racontait quelque chose d'un contrat social qui était déjà ébréché. Et 20 ans plus tard, je me languis moi aussi d'avoir à réentendre à nouveau peut-être Jacques Chirac quand on se souvient de la réponse politique à la mort de Naël Merzouk à Nanterre en 2023, qui a été, j'ouvre les guillemets, l'ordre, fermez les guillemets. Voilà, on voit à quel point cette question des quartiers populaires et de manière plus générale, la question de ceux qui sont les abandonnés de la République, si je puis dire, a été laissée sur le bas-côté. Voilà, c'est plus au centre de l'agenda politique, peut-être un peu aujourd'hui au centre de l'agenda médiatique.
Oui, peut-être plutôt médiatique que politique. Nora Hammadi, vous nous avez livré votre impression sur cette allocution du président Chirac depuis l'Élysée en 2005. Notre rédacteur en chef, lui, l'a trouvé formidable. Il avait d'ailleurs pleuré déjà à l'époque en la regardant en direct. Et là, il a repleuré en la revisionnant hier pour les besoins de l'émission. Quel homme, s'est-il exclamé avant d'embrasser la croix de Lorraine, qui porte un chapelet autour du cou. Puis, il a fait signe à sa femme et ses enfants qu'il fallait le laisser, qu'il allait se recueillir. Il s'est alors dirigé vers la platine vinyle du salon où il a posé ce 45 tours que beaucoup ont oublié. Mais pas ceux qui, en 77, ont voté Chirac pour la mairie de Paris.
Avec Chirac pour Paris, tous unis. Avec Chirac pour Paris.
On dirait les frères Jacques, mais en raté.
C'est dégueulasse ce que vous dites.
Vous insultez la mémoire de Jacques Chirac, Quentin. Cyril retient ses larmes. Cyril retient ses larmes en pensant à Annie Dingo, comme il l'appelle, qui en 11 ans a foutu en l'air tout le travail de son idole. Mais il faut être fort, Cyril. Zoom, zoom, zen. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans Zoom Zoom Zen chaque après-midi sur Inter, le carrefour du gai savoir. 2 heures pour décrypter l'actu sans oublier d'en rire. Un cahier des charges qui n'était pas difficile à respecter aujourd'hui, sachant que le 27 octobre, c'est l'anniversaire de plein d'événements joyeux. 27 octobre 1806, suite à sa victoire à Iéna, Napoléon Ier entre à Berlin. 27 octobre 1967, Joe Star, le parrain non officiel de notre émission, voit le jour. 27 octobre, c'est aussi la journée mondiale du champagne. On avait l'embarras du choix des sujets fun. Eh bien, croyez-le ou non, alors qu'on aurait pu recevoir un représentant de la maison Dom Pérignon ou de Joe Star, voire, et c'est l'option qui avait ma faveur, recevoir Louis Sarkozy pour son livre passionnant sur Napoléon, eh bien non. Cyril, derrière la toison pectorale duquel bat visiblement un cœur, s'est souvenu que le 27 octobre 2005, c'était surtout la mort tragique de Ziad et Bouna. Voilà pourquoi, comme il nous le disait d'un ton tragique en conférence de rédaction, je cite, « Comme les Rital en 2002 après le but de Wiltord, on rebouche le champagne et on se met au boulot. » ont répondu en chœur Manon et Quentin qui décidément n'en sont pas, une flagornerie près.
Zoom zoom zen.
Mathieu Noël.
Alors Nora Amadi, on va revenir sur le drame de Ziad Ebouna et ses conséquences. On va parler de votre livre. Juste le temps de vous présenter des chroniqueurs qui ne sont pas tous ravis de vous accueillir parmi nous cet après-midi. L'un ayant même déclaré, je cite, « c'est elle ou moi ». Cette personne qui vous déteste ici, je la cite, hein, vous lui avez volé sa vie, ce n'est pas Manon, car non, vous n'êtes pas actrice de cinéma.
Jamais.
Manon, chaque après-midi, à défaut de donner la réplique à François Civil, ce qui était le plan numéro 1, vous brillez dans le plan numéro 2, la veille sanitaire, l'analyse journalistique des réseaux sociaux. Au programme.
Oh. Et ben, une streameuse qui s'est faite agresser ce week-end par un fan lors de la TwitchCon, la convention de la plateforme Twitch. De quoi nous interroger sur les relations parasociales qui sont plus que jamais exacerbées à cause des réseaux sociaux, jusqu'à mener au pire. Je vous en parle dans ma veille sanitaire.
Face à vous, Nora, c'est là que les choses se compliquent pour vous. Fin juin, lorsque Claude Askolovitch a annoncé qu'il ne reprendrait pas sa revue de presse à la rentrée, il en était sûr, le téléphone allait sonner et ça serait pour lui. Alors, le téléphone a sonné. Oui, il a sonné, mais c'était un démarcheur pour le CPF, le compte professionnel de formation. Je m'en fous de ton CPF à la con, torche-toi avec. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de reprendre la revue de presse de la matinale d'Inter. Vivement répliqué Quentin, avant de lui raccrocher au nez. Quelques heures plus tard, il apprenait par le biais d'une alerte info Morandini l'impensable, car il a des bonnes sources, l'impensable, la direction d'Inter avait choisi Nora Amadi au lieu de lui pour remplacer Asko. Et c'est ainsi que
C'est la pire idée.
Sans même vous connaître, il vous déteste tant que ça. Quentin, ce n'est donc pas une chronique, mais une leçon que vous entendez donner à notre invité aujourd'hui.
Et n'en déplaise à Nora, j'ai aussi lu L'Ardennais hier après-midi en charentaise et dans mon rocking chair, en fumant la pipe. C'est aussi comme ça que je travaille, chacun son truc. Et j'ai trouvé
l'histoire.
À Camden, il a consommé.
Ah ouais,
hein.
J'ai trouvé à Londres, donc, oui, j'ai trouvé l'histoire trop cool de six seniors, résidents d'une maison de retraite à Charleville-Mézières, qui ont réalisé un défi sportif de l'année. C'est un peu leur Everest à eux.
Ne regardez pas Cyril quand vous dites ça, c'est très gênant.
Il vous regarde vous.
Côté
hein.
humour. Côté humour, en étant radio, je peux dire ce que je veux, ça est bien. Côté humour, pourquoi changer une équipe qui gagne? Ça serait trop bête. Voilà pourquoi c'est Ahmed Sparrow qui aura la lourde responsabilité de nous faire rire avec l'affaire Ziad Ebouna. Je pense qu'il parlera plutôt des banlieues. Quant à Marie Debreuer, vous la retrouverez vers la demi, comme d'habitude, sauf qu'aujourd'hui, elle a assisté pour nous au début du procès des cyberharceleurs de Brigitte Macron. Vous savez, ceux qui affirment qu'elle serait un homme nommé Jean-Michel. Une actu qui, je vous le dis déjà, a beaucoup inspiré Marie. Lui, il est toujours inspiré quand une émission commence par un son de Jacques Chirac. La question est, parviendra-t-il à surmonter son émotion? D'autant qu'hier, il a également lu, bouleversé comme nous tous, la lettre de Didier Barbelivien à son ami Nicolas Sarkozy dans le JDD. Lettre sobrement intitulée « La France ne peut pas être le pays de la honte ». Cyril, je sais que vous avez mal à votre France, mais je sais aussi que vous allez trouver la force. Vous allez trouver la force, et peut-être d'ailleurs en écoutant cette version instrumentale de « Et tu danses avec lui » de Barbelivien, pour nous livrer votre Lacar News, les trois infos que vous aurez hâte de raconter à la maison ce soir.
Kamala Harris se verrait bien, nouveau candidate à la Maison Blanche, les Français inquiets pour les accents régionaux, ça vous plaît Quentin, et Emmanuel Macron, le chevalier blanc contre les réseaux sociaux.
Le Lacar News, ce sera juste avant la demi, mais d'abord, Nora Amadi est avec nous pour son livre « La maison des rêves » publié chez Flammarion. Je le disais, Nora, nous sommes aujourd'hui 20 ans, jour pour jour après la mort de Ziad Ebouna dans un transformateur électrique de Clichy-sous-Bois, un drame qui avait provoqué plus de 20 jours de révolte partout en France. L'état d'urgence avait même été déclaré. Pourquoi la mort de ces deux jeunes garçons a provoqué une telle émotion et pourquoi aussi une telle flambée de violence par la suite?
Alors, c'était pas la première fois. Il faut quand même se souvenir que si on rembobine un peu l'histoire, à chaque fois qu'il y a des violences policières, à chaque fois qu'il y a un mort dans un quartier populaire, ça a donné lieu à des embrasements de ce type. Mmh. Ça commence aux Minguettes, à Vénissieux, ça donne lieu d'ailleurs quelques années plus tard à la fameuse marche pour l'égalité et contre le racisme en 1983. Il faut voir aussi dans les années 90, Damaril Ellis, Mantes-la-Jolie, Le Val-Fourré. Tout ceci en fait est extrêmement territorialisé. Et là, pour la première fois, Ziad Ebouna, je ne saurais pas expliquer les raisons intrinsèques qui ont conduit à un tel embrasement, mais il faut aussi reprendre le processus. On est un mardi, c'est le ramadan, c'est la fin du ramadan. On se demande encore aujourd'hui pourquoi est-ce que Ziad Ebouna courait. C'est la deuxième occurrence qu'on retrouve quand on tape Ziad Ebouna sur Google. En fait, c'est assez logique quand on connaît l'histoire de ces gamins en quartier populaire et du rapport police-population, qui est passé en population générale, mais on pourra y revenir, de se dire que quand on est comme ça engagé peut-être dans une confrontation avec la police, on court. Et ces gamins sont morts dans un transformateur EDF. Il faut se souvenir aussi que les habitants disent que la puissance électrique dans les appartements finalement abaissé, qu'on a retrouvé que Muhittin, le troisième, qui a été brûlé au troisième degré, est venu chercher le frère d'un des deux gamins, et on a retrouvé des chaussures carbonisées. Donc tout ça, en fait, on est au début d'Internet aussi, et tout ça commence en fait par des SMS, par des boucles de mails, et comme d'habitude, il y a une forme de colère rentrée, mais qui cette fois-ci commence à exploser. Donc comme d'habitude, à Clichy, le soir même, ça pète.
Elle explose aussi par le mépris peut-être des politiques au début, dans un premier temps, qui disent finalement c'était certainement des
Nicolas
voleurs.
Nicolas Sarkozy, le premier, il faut là aussi revenir au mois de juin, il est sur la dalle, enfin il est à la Courneuve et il nous parle du Karcher. Quelques jours avant, il est à Argenteuil et il nous dit on va s'en débarrasser en fait de cette racaille. Il faut pas penser en fait que les quartiers sont des déserts politiques et que les gamins et leurs parents n'écoutent pas la radio, n'écoutent pas la télévision.
Les propos de Sarkozy ont eu un impact directement.
Direct. C'est-à-dire que ça, je l'ai énormément entendu à l'époque. Moi, j'ai 25 ans, je suis déjà prof et je vois déjà en fait cette colère sourde de dire mais en fait on n'en peut plus d'être insulté. Et c'est là que commence la petite musique du nuisible qu'on a beaucoup entendu, souvenez-vous, après Naël, avec ce fameux communiqué de presse en fait de syndicats de police qui parlait de la nécessité de se débarrasser des nuisibles. Donc ça a commencé là, ça a commencé il y a 20 ans. Et qu'est-ce qui se passe ? Ça pète à Clichy, et trois jours plus tard, il y a une bombe lacrymogène qui est envoyée dans la mosquée de Clichy-Montfermeil, et là, ça s'embrase, parce que plutôt que d'essayer de calmer le jeu, la présentation qui a été faite par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Nicolas Sarkozy, de gamin, en disant que c'était des cambrioleurs qui venaient voler sur un chantier, puis le traitement médiatique qui s'en est suivi, il faut quand même... On a appris leur prénom bien après. On n'a pas su comment ils s'appelaient. Donc, on reproduisait les mêmes choses, et
mais
c'est
par
là...
tous les médias, même les médias de gauche de l'époque ?
Par la plupart des médias. Et c'est ça qui a été terrible, c'est que pour la première fois, l'embrasement a été général et cette contamination a démontré en fait qu'il y avait quelque chose qui était en train de basculer. On était en train de vivre un moment inédit dans l'histoire.
Comment se portent nos banlieues 20 ans, jour pour jour, après la mort de Ziad Ebouna ? On en parle avec Nora Hammadi, notre invitée cet après-midi, qui publie La Maison des Rêves chez Flammarion. À suivre dans Zoom Zoom Zen, une journée pour prendre les fake news à bras-le-corps. C'est la dernière idée d'Emmanuel Macron. C'est déjà mieux qu'une dissolution, mais qu'est-ce que ça vaut ? Cyril tentera d'être nuancé, mais ça sera difficile, vu l'état de nervosité dans lequel l'a placé l'épisode des pâtes carbo à midi. Plus d'infos à suivre dans le Lacar News, juste après Presidents of the United States of America, Lump sur Inter.
Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
À suivre dans Zoom Zoom, on prend les mêmes et on recommence. Figurez-vous que Kamala Harris se verrait bien remettre ça en 2028. Et puis des seniors qui ont la forme, Quentin nous présente des pensionnaires d'un EHPAD de Charleville-Mézières qui ont gravi l'Everest, un formidable message d'espoir pour Cyril. Mais pour l'heure, on en revient à notre sujet fil rouge cet après-midi, les banlieues françaises, 20 ans après la mort de Ziad Ebouna. Nora Hammadi est avec nous pour son livre autobiographique La Maison des Rêves, publié chez Flammarion. C'est quoi déjà, Nora, cette Maison des Rêves?
La Maison des Rêves, c'est... Alors il faut se situer à Longjumeau, 19 km de Paris. Pour les plus vieux d'entre vous et nous, c'est la zone 5 de la carte orange.
Vous n'avez pas connu ça.
Non, mais carte imaginaire, oui.
Voilà, exactement. Donc, nous sommes en zone 5. Moi, c'est ce que j'appelle la banlieue des Champs. Et dans cette banlieue des Champs, on a érigé quelques bâtiments. Donc, on est déjà loin de tout, sujet à des assignations multiples, hein, puisque les transports galèrent, puisqu'il n'y a pas beaucoup de boulot, puisqu'on est au milieu de zones d'activité, etc. Et moi, je grandis là-dedans. Et la Maison des Rêves, c'est le local 6, entre le bâtiment B10 et B11 du quartier. Et c'est le nom qui a été donné par une gamine qui le fréquentait, elle aussi, à l'époque. Et c'était l'aide aux devoirs. C'était des activités le mercredi, le samedi, pendant les vacances scolaires. On nous a emmenés à la piscine. C'est la première fois, moi, que j'écoute Mozart. C'est des matchs d'impro en théâtre. C'est du sport. Enfin, voilà, c'est tout.
Cette maison des rêves, elle existe toujours aujourd'hui ?
Ah ben non. C'est tout l'objet de ce livre. C'est-à-dire qu'en fait, je reviens 10 ans plus tard, après avoir quitté le quartier en 2014, quand ma grand-mère décède, je reviens et je me dis, bah tiens, que sont devenus ces petits strapontins de la République dont moi j'ai bénéficié et qui m'ont permis de faire mentir les assignations, de faire mentir les déterminismes. Bon, bah alors, spoil, je vais vous divulgâcher la fin. Oui. Ces espaces n'existent plus et ce quartier, percuté aussi par le narcotrafic, par la fin des services publics, mais comme on a tendance à l'entendre, les hôpitaux qui ferment, les piscines qui ferment, la crèche familiale qui ferme, la gare qui ferme, ben ça à 19 km de Paris. Avant, c'était l'apanage de villages dans la Nièvre, dans le Berry, dans l'Orne. Et là, d'un seul coup, en fait, on se retrouve dans la grande banlieue parisienne, percutée par la même réalité d'une partie de la République et de ses habitants qui sont relégués et qui ont en fait été abandonnés. Quand moi, ce livre, il part aussi de Emmanuel Macron, qui fait un discours aux Mureaux sur le séparatisme il y a quelques années. Et moi, là, je suis très, 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 très en colère en écoutant ça, hein, parce qu'il faut se souvenir qu'Emmanuel Macron lance sa campagne depuis la Seine-Saint-Denis dans le 93 en disant « La Seine-Saint-Denis, c'est la Californie sans la mer ». Et là, on se dit « Waouh, enfin quelqu'un qui a compris ». Bon, eh ben, en fait, pas vraiment, puisque du coup, ce discours sur le séparatisme, moi, me conduit à partir dans une colère noire en disant « Mais bordel, vous allez arrêter de vous fiche de nous. Celle qui s'est barrée, c'est la République ». Celle qui a décidé de se séparer d'une partie de ses habitants, c'est la République. Et c'est aussi la genèse de ce livre. Donc je reviens 10 ans plus tard et je me rends compte à quel point finalement ce quartier a glissé, mais aussi cette ville a glissé, parce que dans des logiques de concurrence territoriale, il y a les gagnants et il y a les perdants. Et c'est pas seulement en fait les villes rurales, le périurbain, qui ont conduit au mouvement des Gilets jaunes, mais on y reviendra si vous voulez, parce que vraiment, il faut le voir en miroir de 2005. Cette question en fait de la dignité, du rapport au service public et d'avoir une place sur la carte de France, en fait, elle est partout réelle maintenant.
Parce que la Maison des Rêves. Et vous racontez que la demande principale des familles, même si la Maison des Rêves a fermé, qui vivent dans ces cités, ce sont des lieux de convivialité pour se retrouver, partager, faire la fête. Le principal problème des banlieues françaises, est-ce que c'est l'architecture, l'urbanisme, l'équipement qui n'est pas adapté, qui n'est plus adapté, qui ne l'a jamais été d'ailleurs ?
C'est une question de multiples relégations. C'est une relégation sociale, parce qu'il n'y a pas de boulot, spatiale, parce qu'il n'y a pas de transport, économique. C'est des relégations en termes d'éducation. Il y a des rapports multiples depuis 40 ans qu'existe la politique de la ville, qui nous disent que ces quartiers n'ont pas accès à ce qu'on appelle le droit commun. C'est-à-dire que vous prenez un territoire typique de banlieue parisienne, plutôt avec des classes moyennes supérieures, enfin qui soient mixtes, et vous n'avez pas accès au même nombre de médecins, au même nombre de policiers, au même nombre de juges, au même nombre de greffiers, au même nombre d'éducateurs. Voilà. C'est-à-dire que l'accès au service public est dégradé. Et il est chroniquement dégradé. C'est pour ça que la politique de la ville, elle naît à la fin des années 70, et j'en parle un peu dans le livre, elle naît de cette nécessité en fait de rééquilibrer les dotations publiques dans ces espaces. 40 ans plus tard, on se rend compte que malgré les centaines de milliards qui auraient été balancés dans ces quartiers, on n'y est toujours pas, le compte n'y est pas. Et malheureusement, ça a des conséquences absolument directes sur la trajectoire de ces gamins, de ces habitants. Et puis, ces quartiers se sont appauvris, et c'est ça aussi la réalité de ces zones, et qui sont sortis complètement du calendrier politique, clairement.
Le compte n'y est pas, et la Maison des Rêves non plus. Nora Hammadi, c'est disponible chez Flammarion, vous écoutez Inter, il est 17h27. On se lève et on se casse. 5 ans après la sortie fracassante d'Adèle Haenel au César pour dénoncer la victoire de Roman Polanski, les mots du courroux ont encore résonné, cette fois dans une trattoria de l'Ouest parisien, quand Cyril Lacarrière, qui était venu précisément dans cet établissement, alléché par la perspective de déguster des linguinés à la carbonara annoncés sur le site internet du restaurant, a découvert, outré, qu'on lui avait menti et qu'il n'y avait pas de pâte carbo à la carte. Comme Adèle Haenel, il a voulu faire volte-face et sortir, sauf que voilà, techniquement, c'est Lambert l'empêchait de faire volte-face.
Non, c'est pas ça.
Il vous êtes resté.
C'est vous qui m'avez empêché qu'on fasse demi-tour.
Mais non, allez, vous aviez faim, pas à nous.
Blablabla. Il a donc dû
se résoudre à bouffer une pizza. Cette déconvenue aura-t-elle des répercussions sur ses performances radiophoniques? Découvrons-le avec le Lacar News. Les 3 infos qu'il ne fallait pas rater en ce 27 octobre. On démarre, Cyril, avec la drôle d'idée du jour.
Je ne suis pas fini, et c'est Kamala Harris qui le dit. Alors vous vous souvenez peut-être, Kamala Harris, elle avait remplacé au pied levé. Elle avait remplacé Joe Biden, elle devait empêcher Trump de revenir à la Maison Blanche. Ça n'a pas marché. Eh bien, la démocrate n'a pas perdu tout espoir. Elle le dit un peu partout en ce moment pour la promo de son livre. Elle l'a dit notamment à la BBC. Elle n'écarte aucune piste pour la prochaine présidentielle américaine. Ça sera en 2028, hein, l'occasion de se rappeler que Donald Trump a été réélu il y a seulement moins d'un an.
Et non pas 1000 ans en ressenti.
Absolument. Kamala Harris, qu'on entend peu depuis le retour au pouvoir du républicain, comme tous les démocrates d'ailleurs. Pour mémoire, Kamala Harris est la première candidate démocrate à perdre à la fois le vote populaire et le vote des grands électeurs depuis John Kerry.
C'est en
2004, Kerry affrontait George W. Bush, le président sortant. Du coup, Kamala Harris doit faire comme François Simon et se poser la question « Y retournerai-je ?» et répondre « Surtout pas !»
La crainte du jour, Cyril.
Les Français craignent que leur action disparaisse. Ils sont d'ailleurs plus d'un sur deux à déjà ressentir cette disparition. Des chiffres publiés aujourd'hui par la plateforme Preply, qui fait de l'apprentissage des langues en ligne. Et c'est dans le sud de la France que cette crainte est la plus forte. Étonnant, puisque c'est vraiment une région où l'accent peut nous paraître le plus représenté dans la langue française. En revanche, pas de grosses différences quand on regarde selon les générations. Les 80 ans et plus sont 52% à ressentir une disparition des accents. C'est 59% chez la Gen Z. Pour la plateforme, cet écart s'explique par le fait que les jeunes vivent dans des environnements connectés et normalisés où les plateformes de streaming et les réseaux sociaux ont uniformisé la prononciation.
L'incroyable découverte du jour pour finir.
Eh oui, elle est à l'Élysée. Demain, Emmanuel Macron consacre sa journée au danger des réseaux sociaux. Le soir, il sera au Palais de Chaillot pour le Forum de Paris sur la paix, où on parlera ingérence étrangère et désinformation. Je l'ai appris hier en lisant la Tribune dimanche. Il y avait aussi cette citation du président. Les réseaux sociaux sont en train de faire muter nos sociétés démocratiques. La ligne éditoriale des réseaux, ce sont les algorithmes et elle n'est pas claire du tout. Quand vous ouvrez CNews, vous savez où vous êtes. Quand vous êtes sur X, vous ne savez pas immédiatement où vous vous trouvez. Les réseaux sociaux créent des états d'excitation lucratifs, car c'est aussi un business informationnel. Fin de citation. Eh ben, sacrée découverte que celle d'Emmanuel Macron, presque 10 ans après l'élection de Trump et le Brexit, deux campagnes noyautées par les fake news qui ont pullulé sur les réseaux sociaux. Le président découvre leur danger. En a-t-il parlé avec Mark Zuckerberg et Elon Musk quand il les reçoit en grande pompe à l'Élysée? La lecture de ce papier hier m'a énervé, comme les carbonara, il fallait que je vous en parle.
Ça dénonce, c'était vraiment un jour, notre jour de dénonciation.
Le retour de vacances, je suis agacé.
Merci Cyril. Nora Hammadi, puisqu'on parle des dangers des réseaux sociaux, est-ce que les dérives qu'on constate tous depuis longtemps, visiblement Emmanuel Macron les découvre, est-ce qu'elles sont encore plus importantes, flagrantes dans les quartiers populaires?
Pas plus que ça. Moi, je fais des ateliers d'éducation aux médias depuis une vingtaine d'années en quartier. Alors, j'ai vu... Moi, j'ai vieilli, enfin, je m'en rends pas compte puisque j'ai toujours affaire à des gamins entre 15 et 20 ans. Non, je les trouve beaucoup plus alertes que nos aînés, par exemple. Je pense qu'on a tous... On a tous un fil famille WhatsApp. Voilà, je pense qu'on a tous conscience de ce que nous envoient, en fait, nos parents. Voilà, mes oncles, mes tantes. Alors moi, je suis plutôt effarée parce que nos aînés produisent comme fake news et la manière dont ils...
Ils relayent des fake news.
Alors que finalement, l'un dans l'autre, moi, j'ai affaire à des gamins qui sont beaucoup plus alertes. En revanche, ce dont ils n'ont pas conscience, c'est d'être des victimes d'une forme d'économie de l'attention. Ce que Cyril évoquait à l'instant, en fait, c'est que tout ceci est une économie et le fait de nous faire rester sur les réseaux, sur TikTok, de nous envoyer en fait via des algorithmes dans des bulles de filtres.
Et ça, les jeunes n'en ont pas conscience.
Ils n'en ont pas conscience en fait que tout ceci est un marché et que leurs données sont un marché. Et donc, moi, ça me fait assez marrer de leur faire découvrir ça parce que j'ai l'impression de les faire sortir du mythe de la caverne. Ils sortent, ils disent mais sérieux? Bah ouais, sérieux, ouais, tout ça est une industrie, mes chers amis.
Dans sa France à lui, à présent, direction Quentin, le Grand Est.
Les Ardennes, Mathieu, où le dimanche, on a le bonheur de feuilleter l'Ardennais, ce journal local qui a consacré
sa vie. On se moque pas.
Absolument.
On aime la PQR.
Lui, il se
moque pas. J'adore. Ils ont consacré la une à 6 seigneurs d'une maison de retraite de Charleville-Mézières. Ces 6 seigneurs qui ont réaliser le défi de l'année, grimper l'Everest. Oui, oui, comme le youtubeur alpiniste Inoxtag, mais en plus discret, ce qui n'est pas compliqué, hein, visiblement. Je taquine un peu, mais ce n'est pas l'Everest qu'ils ont monté, c'est leur Everest. Parce que Ginette, Michel, Marie-Françoise, Josette, Jacques et René, l'aîné de la bande qui a 92 ans, ont gravi les 327 marches du premier étage de la Tour Eiffel.
Ah, même moi, je ne le fais pas.
C'était le mardi 14 octobre.
Honnêtement,
dernier.
Moi, je ne l'ai pas fait depuis peut-être 30 ans.
Attendez, c'était mardi 14 octobre dernier. Pendant que nous étions là, tranquillement avachis dans ce studio à grignoter je ne sais quelle cochonnerie, et bien, pratiquement en face de nous, René et sa bande ont monté 57 mètres de hauteur au premier étage du monument le plus emblématique de la capitale, en 25 minutes, et 25 minutes, c'est pas mal du tout. Alors évidemment, on n'arrive pas à un tel exploit comme ça, ça a fait des mois qu'ils s'entraînent avec deux préparateurs physiques et qui leur ont fait grimper à peu près toutes les marches de la ville de Charleville-Mézières. Tous étaient conscients de la difficulté, et d'ailleurs, et ça c'est marrant, l'agent d'accueil de la Tour Eiffel leur a d'abord refusé l'entrée des escaliers au prétexte de préserver leur intégrité physique. Il a fallu donc discuter, accord de principe des familles présentes, certificats médicaux prouvant...
C'est de la discrimination leur...
C'est de l'agisme. Et ouais, pour prendre un peu... Mais non, mais c'est un peu... Mais ils ont fait attention
oui,
aux gens qui
viennent. Voilà. On peut le voir de deux
manières. Mais bon, 25 minutes plus tard, le personnel de la tour, attendri par ce défi insolite, les attendait pour les féliciter au premier étage. Petite émotion supplémentaire pour René et Michel au moment de profiter de la vue, puisque c'était leur première fois sur la Tour Eiffel, Mathieu.
Et moi, je me suis laissé abuser par votre teasing. J'ai vraiment cru qu'ils avaient escaladé l'Everest. Et je commençais à me dire, mais attendez, 92 ans, l'Everest...
C'est leur Everest.
C'est chaud quand même.
C'est leur Everest.
Et pour vous, Quentin, cette histoire raconte plus qu'une escapade du troisième âge.
On est dans un monde un peu obsédé par la jeunesse. La preuve avec le refus à cet accès. Ces six seniors rappellent qu'on peut encore prendre un peu d'altitude à 90 ans et plus, se lancer un défi, se challenger nous-mêmes. Leur ascension de la tour, c'est une leçon de vitalité et de collectif. Ils se sont entraînés ensemble, ces pensionnaires, qui ont retrouvé aussi un but en commun, une cohésion, une joie d'équipe, trop souvent absente dans les établissements d'hébergement. On est quand même loin du scandale d'Orpea, là, avec cette histoire. Et pendant qu'à 92 ans, René grimpait la tour Eiffel, nous, à 30, 40, 50, désolé Cyril, on râle quand on doit prendre les escaliers de Radio France au moment de l'exercice. Incendie.
Là, moi, je les prends pas, je reste caché dans
J'espère
mon bureau.
J'espère qu'ils ont mis leur score sur Strava. Hein.
Ils ont peut-être pas Strava.
Nora, on parle toujours des jeunes des banlieues. On parle rarement des vieux des banlieues.
Ça devient un vrai sujet. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que dans les quartiers populaires, la question de l'isolement social est réelle. Et d'ailleurs, j'ai été, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai ouvert la revue de presse avec l'histoire d'un papy, ce qu'on appelle des Chibani, c'est-à-dire ces vieux travailleurs immigrés qui sont venus dans les années 40-60, qui travaillaient à l'usine, qui ont pour beaucoup vécu en hôtels sociaux et qui s'est retrouvé dans un HLM à Montrouge et ça s'appelle des morts solitaires. On a retrouvé ce monsieur assis derrière la porte de son logement. Ça faisait 3 ans qu'il était mort. Et en quartier populaire, mais comme ailleurs, hein, il suffit de regarder, de vous plomber un petit peu votre fin d'après-midi à 17h30. mais on estime aujourd'hui que ce sont des centaines de milliers de personnes qui sont dans cet état de mort sociale puisqu'ils ne parlent plus à personne. Et en quartier populaire, c'est une vraie réalité, parce que, par ailleurs, le bâti n'est absolument pas fait pour les plus âgés. Et c'est une vraie question, et en l'état, on ne sait pas y répondre.
On fera une émission la semaine prochaine sur la mort sociale.
Oh, Cyril, c'est fou. Comment on sait rebondir
mardi
comme
en 8.
Ça. C'est incroyable. Là, c'est le moment où je vous félicite, en tant que rédacteur en chef, d'avoir trouvé
cette idée brillante.
Cyril Lacarrière, brillante idée. À suivre dans Zoom Zoom Zen, les débuts d'un procès rocambolesque avec notre expert police-justice à nous, Marie de Breuer, bonjour.
Bonjour, et oui, 10 des cyberharceleurs de Brigitte Macron qui ont relayé la fausse information sur la transidentité de Brigitte. Voilà, c'est le procès qui a aujourd'hui. C'est mon sujet. Et ça sera marrant, hein. Pas comme ça, qui est surtout informatif.
La chronique drôle de Marie de Breuer, c'est juste après Jungle Jack et Hologram Law, Stuntman Jack sur France Inter.
J'ai fait mes devoirs, maintenant je veux voir le champagne pleuvoir. J'ai fait mes devoirs, maintenant je veux voir le champagne pleuvoir.
J'ai fait mes devoirs, maintenant je veux voir le champagne pleuvoir.
J'rappais rue du retrait avec Lars, mais de la réelle A. Quand j'y repense en vrai, tout a démarré de là. Le A m'a présenté à Bloop et Bloop m'a présenté à Nucky quand il est sorti du star. On a fait un son ensemble, mais on s'est vraiment connecté quelques années plus tard. Le but c'était de devenir riche et faire la musique après. À cette époque, mon gars va Alex, c'était en cavale et garder un fusil chargé. Parce que je suis fier de ce qu'on est devenu. On est toujours pas riche, mais de l'enfer on est revenu. Je suis fier de la manière dont je fais mes revenus. Plutôt ce serait la grosse défaite si je retouchais un couteau pour couper autre chose que des steaks. Check, par cette musique je retrouve ma dignité. Je vers la tienne quand t'essayes d'imiter. Le style est immaculé, ils vont finir par calculer. Chaque fois je rappe, j'allume un brasier sous leur huc. Je garde un pied calé sur leur nuque. Les meilleurs beatmakers m'appellent pour rafaler sur leur truc. Tu veux rapper comme ça? Va falloir cravacher plus d'air sub. J'essaye de rester rationnel, je peux pas contre mes démons. Si je gagne, je brise des malédictions générationnelles. Entre mes victoires et mes défaites, j'ai un ratio de merde. Augmente mes stats, augmente le thermostat. Homme des collines, où le pêche sort une fiole comme colline. Adrénaline en pique, une grosse dose de sérotonine. Jack, je suis un cascadeur, un stuntman. Pour chasse que le cash ou le sunshine. J'ai des lignes et je prends des grandes rasades. Stuntman Jack, les rimes en cascade. Je mérite une pluie de ruinard. Même si je déboîte dans le sac, ça fait des bruits bizarres. J'ai fait mes devoirs maintenant, je veux voir le champagne pleuvoir.
J'ai fait mes devoirs maintenant, je veux voir le champagne pleuvoir.
J'ai fait mes devoirs maintenant, je veux voir le champagne pleuvoir.
J'ai fait mes devoirs, mes devoirs.
Zoom zoom zen. Mathieu Noël sur France Inter.
À suivre dans Zoom Zoom, les relations parasociales, vous savez forcément ce que c'est vu qu'on y a consacré une émission entière, eh bien les relations parasociales franchissent les bornes puisque de plus en plus d'influenceuses sont harcelées dans le monde réel. Manon nous explique ça dans sa veille sanitaire. Mais d'abord, rions de l'actu juridique avec Marie Debreuer. Cet après-midi, Marie, vous nous parlez du procès des cyberharceleurs de Brigitte Macron qui ont relayé la rumeur selon laquelle Brigitte Macron serait une femme transgenre.
C'est un véritable challenge, hein, cette chronique. Un challenge parce que je vais à la fois mettre un coup de pied anti-macroniste dans la fourmilière qui est l'exécutif, dénoncer la transphobie, tout ça en faisant de la prévention contre le cyberharcèlement. C'est un challenge, hein, ou peut-être que j'aime juste dire le mot challenge. aujourd'hui se tient le procès contre 10 des cyberharceleurs de Brigitte Macron pour propos malveillants, notamment pour avoir propagé la rumeur selon laquelle Brigitte serait une femme trans et l'assimilant aussi à la pédophilie, étant donné qu'elle a 24 ans d'écart avec Emmanuel. Et bon, pédo, non. Voilà, ils sont tous les deux adultes, Brigitte et Manu, et que le président aime porter des couches pendant l'acte, en disant « Arreux, arreux, torche-moi le trou de balle, momie, c'est juste un kink en fait. Non, mais pas de kink shaming ici, ok, d'accord ?» Parmi les accusés, il y a Delphine, alias Amandine. Excusez-moi, mais prendre un pseudo et choisir un prénom de tarte aux poires, ça n'a pas de sens. Puis désolé, mais Delphine et Amandine, c'est exactement le même prénom. Si, c'est comme si moi, Marie, je me faisais appeler la Sainte Vierge. C'est pareil, quoi. Bon, moi, ça foutrait en l'air mon business model rapport aux blagues sur les trous de balle, mais c'est pareil. L'accusée Delphine, elle a 51 ans et elle est médium. Bon, elle l'avait pas vu venir le procès, la médium. Je fais pas confiance, moi, au médium. J'ai déjà consulté une médium, et oui, c'est vrai. Elle m'a demandé si j'avais un conflit en ce moment. J'ai dit non. Ou une dispute? J'ai dit non. Ou un problème avec la justice? J'ai dit non. Pas de problème de trahison? Non. D'abus de confiance? Non. Elle m'a répondu, bah faites attention quand même, soyez vigilante. Et bah 80 balles, bien dépensées, Marie. Aux États-Unis aussi, il va y avoir un procès, hein, puisque Brigitte Macron a porté plainte contre l'influenceuse Candace Owens. Moi, Candace, je la suivais à l'époque, elle est connue pour ses théories du complot, notamment que la bonne purée, ça se cuisine avec 3 kilos de beurre pour 100 grammes de patates. Et ah, on me dit dans l'oreillette que je la confonds avec Joël Robuchon. Rien à voir. Oula. Candace Owens, elle a diffusé une série de vidéos documentaires complotistes, Becoming Brigitte, qui a beaucoup propagé la rumeur. Et apparemment, au procès américain, Brigitte Macron va peut-être devoir prouver qu'elle n'est pas un homme. Mais c'est ridicule, elle va faire quoi? Deux trucs en même temps? Ici, regardez, quand je mets de l'eau à bouillir, je n'attends pas devant la casserole qui est des petites bulles. Et j'en profite pour couper mes légumes. Tout ça en écoutant un podcast. Je vous le dis que je suis une nénette biologique. C'est absurde. Brigitte Macron et son avocat devront peut-être délivrer des preuves scientifiques et photographiques. Mais vous imaginez si elle doit envoyer une photo de son entrejambe. Mais c'est affreux. Et il paraît que Candace Owens, elle aurait même demandé que la photo soit prise avec une bouteille d'eau de 50 centilitres pour, je cite, qu'on ait une idée de l'échelle.
Oh non, non,
c'est
non,
horrible. Quelle affreuse personne, cette Candace. Moi, Becoming Brigitte, j'ai pas regardé. Mais j'imagine que ça doit être de longues minutes de zoom sur les plis du jean de la première dame avec la musique de Requiem for a Dream, Regardez ce jean, il y a une bosse. C'est certainement un pénis énorme. Tu peux y faire du camping en dessous, tellement c'est grand. Et les nichons, est-ce que c'est des vrais nichons? Brigitte, elle porte des perruques qui lui font une tête en forme de triangle, comme une pyramide. Ou un truc comme ça, je sais pas. Je crois que je comprends pas les complotistes et encore moins les transphobes.
Merci beaucoup Marie Debray. Merci surtout de ne pas avoir évoqué le cas de Pierre Courade, notre rédacteur en chef adjoint, dont la stupéfiante évolution capillaire, puisqu'il est passé en une semaine d'Alain Souchon à Jean-Édouard Duloff, doit faire couler beaucoup d'encre dans les milieux complotistes. Et on en revient à notre thème fil rouge cet après-midi, l'évolution de la vie en banlieue. Ces 20 dernières années, notre collègue du matin, Nora Hammadi, est toujours avec nous pour son livre La Maison des Rêves, qui vient de sortir chez Flammarion. Nora, il y a un passage très beau dans votre livre, c'est quand vous parlez de la langue, ou plutôt des deux langues avec lesquelles vous avez grandi, une langue pour chaque espace. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu?
Oui, il s'avère que moi j'ai grandi donc avec ma grand-mère, puisqu'il n'était pas question d'avoir une nounou, puisqu'elle était là. Et ma grand-mère donc est arrivée de Kabylie, montagne d'Algérie, dans les années 70. Et donc, pour communiquer avec elle, ma première langue a été le kabyle. Je suis rentrée en maternelle, je ne parlais pas le français, alors même que mes parents sont parfaitement francophones, éduqués, etc. Et ça a donné lieu en fait à quelque chose d'assez marrant, parce qu'on construit un rapport au monde qui est complètement dessiné par la langue maternelle. C'est-à-dire que je dirais pas que je pense pas en français, je pense en français, mais avec par exemple énormément d'images, ce qui se retrouve par exemple dans l'écriture, mais parce que ça c'est quelque chose que je tiens de la langue kabyle. Et puis alors le truc le plus génial quand même, c'est que les Parisiens, peut-être, vous le savez, en fait, tous les cafés sont tenus par des Kabyles qui ont remplacé les Auvergnats. Donc, ça aide beaucoup quand il s'agit de commander une bière.
Ah,
donc, je ne paye pas grand-chose, typiquement.
Vous avez un prix.
Voilà, exactement.
C'est aussi un lien avec l'Algérie, donc pays d'où viennent vos parents et vos grands-parents. Comment vous vivez les tensions qui déchirent nos deux pays?
C'est hyper dur. C'est hyper dur parce qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une forme de déloyauté dont on est affublé des deux côtés. Les binationaux, en fait, sont pas très bien accueillis, c'est pas par la population, hein, j'entends, mais pas bien traités par le pouvoir, que ce soit en Algérie ou ici. Il y a quand même cette petite musique, en fait, d'une forme de déloyauté qu'on aurait, sauf que, moi, je le dis régulièrement, en fait, l'identité, c'est comme les lasagnes. On a l'opportunité de faire autant de tranches, enfin, de strates qu'on veut. Et là-dessus, tout ceci, c'est comme ce serait comme demander, enfin, c'est débile, quoi. Est-ce que vous préférez votre mère ou votre père, votre grand-père ou votre grand-mère? Moi, je suis vraiment le fruit des deux, et la preuve, c'est qu'il n'y a pas de conflit et qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de gens en France qui ont un lien en fait avec l'Algérie, soit parce qu'ils ont été appelés. Moi, j'ai des copains dont les parents ont été appelés dans les années 60, enfin pendant la guerre. Y a quelque chose d'indélébile. Puis, il y a ceux qui ont été rapatriés, il y a les harkis qui ont aussi été rapatriés et particulièrement maltraités. Et puis, il y a ceux qui, comme mes grands-parents, en fait, sont arrivés pour travailler. Et tout ceci, en fait, aurait pu créer quelque chose de l'ordre d'une forme d'un ciment collectif, d'une identité en fait commune, sauf que tout ceci est aussi instrumentalisé politiquement, parce que il y a quelque chose d'une forme de colonialisme, de post-colonialisme en fait, qu'on n'a toujours pas réglé, et c'est bien dommage, parce que
Non, mais du coup, vous n'êtes pas du tout optimiste sur une possible réconciliation. D'ailleurs, est-ce que le mot réconciliation, c'est le bon mot à utiliser?
Je ne sais pas. Pour l'instant, je ne suis pas hyper optimiste, mais parce que de des côtés de la Méditerranée, on a une tendance, en fait, à mettre un petit peu d'huile sur le feu sur cette question. Les Algériens, enfin, le gouvernement algérien n'a pas intérêt à apaiser, parce qu'il y a une crise sociale comme jamais en Algérie. Il faut quand même se souvenir qu'il y a quelques années, avant le Covid, parce que ça a été percuté par le Covid, le Hirak, donc c'était de grandes manifestations tous les vendredis, ont conduit le gouvernement algérien à vraiment vaciller. C'était Bouteflika qui devait recandidater en fait à la présidence de la République, et finalement, ça n'a pas été le cas. Mais on n'est toujours pas sorti de cette crise sociale. Et c'est ça qui est terrible, c'est que moi, c'est un pays dans lequel je vais tous les ans, mes parents y sont en ce moment. Je suis extrêmement proche de cette culture, n'étant pour autant pas musulmane, et c'est ça aussi, c'est qu'il y a quelque chose aussi d'un tricotage assez fin, c'est-à-dire qu'on est dans une forme en fait de culture assez spécifique, et pour autant, la France est extrêmement forte, mais l'identité, je dirais, qui est la plus forte chez moi, c'est celle de banlieusarde. Parce qu'il y a les Auvergnats, il y a les Bretons et il y a les banlieusards.
Et les banlieusards, et maintenant il y a la Maison des Rêves, c'est chez Flammarion et c'est un livre de Nora Hammadi. Vous écoutez France Inter, il est 17h46. L'heure de notre petit détour quotidien du côté des réseaux sociaux. Manon, aujourd'hui, vous nous parlez de la sécurité des femmes, en particulier celle des créatrices de contenu.
Ce cri que vous entendez au loin, c'est celui de la streameuse américaine Amy Roux qui s'est fait agresser par un fan. Ça s'est passé le week-end dernier lors de la TwitchCon de San Diego, la convention annuelle organisée par la plateforme Twitch. Elle réunit ses plus gros streamers pour qu'ils puissent rencontrer leurs fans et participer à des conférences. Mais cette année, tout ne s'est pas passé comme prévu pour Amy Roux. À 27 ans, elle est suivie par plus de 2 millions de personnes sur Twitch et donc une streameuse star. Et en pleine séance de dédicace avec des fans, un homme a trouvé le moyen de dépasser tout le monde pour aller la voir agripper son visage et tenter de l'embrasser. Son garde du corps intervient à ce moment-là, mais le mal est fait. Malgré le dispositif de sécurité mis en place par la TwitchCon, Amy Roux a été victime d'une agression sexuelle. La streameuse s'est dit évidemment choquée par ce qu'elle a vécu. Dans un post, elle attaque directement l'organisation de Twitch en disant que ce n'est pas la première fois qu'elle est confrontée à quelque chose comme ça, mais qu'elle est très blessée et bouleversée par la façon dont Twitch a géré la situation.
Mais justement, comment la plateforme a réagi ?
Twitch a déclaré dans un communiqué qu'ils ont interdit à l'individu de revenir sur les lieux, que leurs équipes sont intervenues au moment de l'incident et que la sécurité a été renforcée par la suite. Des mensonges selon Amy Roux qui a affirmé qu'aucun responsable de la plateforme n'était venu la voir après son agression et qu'aucun membre de leur sécurité n'est intervenu alors qu'ils étaient plusieurs autour de son stand. Elle a déclaré qu'elle ne participerait plus à la TwitchCon et qu'elle encourage tous les vidéastes à faire de même. Le problème, c'est que l'agression d'Amy Roux est loin d'être un cas isolé. De plus en plus de créateurs de contenu, en particulier des femmes, sont victimes de harcèlement ou d'agression. En mars dernier, l'une des streameuses les plus populaires dans le monde, Amorens, s'est fait agresser à son domicile par 3 hommes. Son mari a été obligé de tirer sur l'un d'entre eux pour les protéger. En France, Magla, la streameuse française la plus suivie sur la plateforme, a aussi été victime d'un stalker qui l'a suivi jusqu'à son domicile, un événement traumatisant dont elle a parlé en live.
Il m'a suivi jusqu'à chez moi et en fait, juste le fait d'avoir un gars qui m'a suivi, qui connaît ma voiture et qui sait exactement, et après il m'a dit qu'il allait venir à 21h chez moi pour venir me chercher.
L'année dernière, la streameuse Kyria avait aussi raconté sur X le harcèlement qu'elle subissait de la part d'un fan. C'est évidemment traumatisant pour toutes ces femmes, d'autant plus que ça peut mener à des cas encore plus graves. Au Japon, par exemple, une streameuse s'est faite poignarder en pleine rue par l'un de ses fans alors qu'elle était en plein live. Elle est décédée par la suite.
Comment on peut expliquer cette flambée de violence
même ? C'est un effet dévastateur de ce qu'on appelle les relations parasociales. On avait fait une émission, ce sont ces relations unilatérales où une personne a l'impression d'avoir un lien particulier avec une célébrité. Alors évidemment, ça a toujours existé, mais ça s'est intensifié avec les réseaux sociaux. Les créateurs de contenu partagent des moments de leur vie, parfois là où ils habitent, leur famille, leurs amis, les endroits où ils vont dîner. Le problème, c'est que parmi les millions de personnes qui les suivent, il peut y avoir des détraqués qui ont l'impression de les connaître et d'être invités dans leur vie. C'est encore pire pour les streamers qui sont en général en live pendant des heures, qui communiquent avec leur chat en direct et qui indiquent malgré eux où ils se trouvent physiquement, en l'occurrence chez eux. Et puis dernièrement, des artistes se sont aussi fait agresser pendant des concerts. Ça a été le cas de Billie Eilish, de Dua Lipa ou encore de Rebecca Baby, la chanteuse du groupe français Lulu Van Trapp. La sécurité des femmes exposées médiatiquement est un vrai sujet de société qu'il faut prendre très au sérieux.
Merci beaucoup Nora Hammadi. Quand vous entendez ça, vous vous dites comme Pascal Praud que la France va mal ou que le monde va mal ou vous vous dites autre chose ?
Je me dis qu'on n'a pas le cul sorti des ronces je suis un peu grossière, mais en fait, c'est hyper difficile. Et ça, pour le coup, je le vois avec les gosses avec lesquels je bosse. Cette espèce de rapport de quotidienneté, en fait, avec les influenceurs. Y a vraiment quelque chose à expliquer là aussi. Typiquement, je n'ai pas de réponse. Et c'est hyper difficile parce que eux, ils ont vraiment. Enfin, les plus jeunes ont grandi là-dedans, donc ils ont tendance à se montrer. Donc, y a quelque chose, une rupture anthropologique là qui est en train de s'opérer. Et en l'état, je ne sais pas comment on leur répond parce que la souffrance, elle est réelle. À un point où certains en fait en sortent, sont complètement, enfin voilà, ne postent plus rien. Et la preuve, c'est qu'en fait, ça nous déglingue tous un peu, je crois.
C'est une note optimiste pour terminer cette émission.
Voilà, c'est Pascal
Praud. Heureusement, non, je
ne
dirais pas tout à fait ça. Heureusement, Ahmed Sparrow est avec nous. Il n'aurait pas manqué l'opportunité de faire des vannes sur Ziad et Bouna, évidemment. Bonjour Ahmed.
Je sais pas quoi dire après ça. Ouais, non, je j'ai pas de blague sur Ziad et Bouna. Je rentre de vacances encore une fois.
Non, c'est pas... C'est mytho.
Non, je te jure, j'étais en Algérie. Là.
C'est vrai.
Ouais, j'étais en Algérie. Je t'ai ramené de la pâte à tartiner de là-bas. Tu vas
la bonne, la vraie, là. Ouais, je vais kiffer. J'ai hâte de la découvrir. La chronique d'Ahmed Sparrow. Le Great Gatsby de Champigny-sur-Marne. Vous allez apprendre à le connaître. C'est juste après Oliver Sim et Katie O'Neill. Obsession sur France Inter. I've been in my head all day, thinking on what I did or did not say. Anything accidentally made, you know, I only ever want to be loved. Is that too much? Boy, please, you're sounding just a touch crazy. Like nothing but cigarettes and coffee can be. We all want to be loved. Baby, that's a lot. It's enough to scare a strong man off. But it happens to the best of us, I swear. Obsession mistaken for lust. You're not in love. But wait, I think it's just too soon to say. It isn't love, maybe not yesterday. Back then, I didn't feel. Il ne la connaît pas, mais il l'aime déjà, car comme lui, elle vient de banlieue, elle travaille sur France Inter, et comme lui, elle n'est pas vendéenne de souche sur 12 générations, comme Bruno Retailleau. Voici Ahmed Sparrow.
Bonjour Nora. Alors, vous avez grandi à Longjumeau, une ville dont le plus grand succès culturel avant vous, c'était les To Be Free. Ouais.
Mais quel succès, Ahmed. Ouais,
quel succès,
vous êtes jaloux. Hein.
Oui, de ouf. Alors, quand t'as grandi dans une ville connue pour les To Be Free, t'as pas de rêve, t'as des traumatismes. Hein. Je sais pas ce que tu pouvais leur dire aux petits pour les motiver. Tu sais, Kader, si tu continues à être sérieux, tu pourras devenir comme Philippe. Voilà. Parce que moi aussi, j'ai grandi en banlieue. Moi aussi, je suis d'origine algérienne. Tout pareil, sauf que moi, j'étais le dernier d'une fratrie de 12. 12, c'est pas une famille, c'est une association, ok? Carrément, le maire de la ville, il venait chez nous récolter des voix, parce qu'il savait que si on votait tous, il serait élu. Quand t'es le 12e, t'es pas un enfant, t'es un recyclage humain. Moi, j'avais des jouets d'occasion. Ma PlayStation, c'était juste une station, il y avait pas le Play. Non, les gens, ils disent, ah, les familles nombreuses, c'est la joie, la solidarité. Ouais, bah, viens partager un yaourt à 12, tu vas voir la solidarité. T'as pas de place, pas de calme, pas de prénom. Ta mère, elle t'appelle toi, là, le petit, le truc. Je te jure, des fois, je me faisais gifler avec un autre prénom. J'ai rien compris. Non, mais 12 enfants, 12. Moi, je suis sûr, moi, alors, faut savoir que moi, déjà, je suis sur le deuxième livret de famille, puisqu'il n'y avait plus de place pour le premier. Même ton prénom, t'as l'impression qu'ils l'ont trouvé à la fin quand il n'y avait plus d'idées. Tu sais, à la base, mon prénom, c'était pas Ahmed. Hein. Moi, c'était Amerde. Parce qu'à l'hôpital, quand ils ont demandé à mon père comment il voulait m'appeler, il a répondu « Ah merde, j'ai plus d'idée là !» Alors pour les anniversaires, oublie, hein. Quand t'es 12e, il n'y a plus de budget gâteau. À 12 ans, ma mère, elle m'a passé une bougie, elle m'a soufflé dessus. Et puis va essayer de te préparer à l'école quand t'as qu'un seul miroir pour 12. Je me coiffais dans le reflet d'une cuillère. J'avais la coupe à Rich Forester dans Les Feux de l'amour. Non. Aujourd'hui, je vois des gens qui font du développement personnel. Frère, moi, j'ai fait du développement collectif. T'apprends à vivre dans le bruit, à esquiver une gifle et faire une sieste sur un canapé déjà occupé. J'étais jaloux de mes camarades de classe. Je les entendais dire j'ai hâte d'être dans mon lit. Ton lit ? Nous, on est 14 dans un T5. Nous, on jouait à Tetris. Il y avait des matelas sur les murs. Et puis, il y avait la télé. Une seule télé, d'accord ? Tu passais de Canal Algérie pour mes parents à Dragon Ball Z pour mes frères et Hélène et les garçons pour mes sœurs. Je te jure, j'avais le cerveau en vrac. Dans ma tête, ça faisait Salam alaikum, Kamehameha, mon cri-cri d'amour. Ça partait en couille. Dans votre livre, Nora, vous dites « J'ai grandi entouré de débats politiques ». Moi aussi, il y avait des débats. Ouais, sauf que chez moi, les débats, c'était « Qui a pris mon yaourt ?» Ouais. Bah ouais, parce que les yaourts se vendent par 12, on est 14. Moi, j'avais toujours un frère qui servait avant tout le monde. Tu sais, le mec, c'était pas un enfant, c'était un prédateur alimentaire. Il ouvrait le four avant la fin de la cuisson. Une fois, je l'ai vu manger un gratin encore congelé. Non, mon frère, il mangeait pas, il prenait de l'avance sur la faim. J'ai grandi en banlieue comme vous, Nora, et j'en suis fier. La banlieue, pas celle des séries Netflix avec des meufs en talons dans les halls. Hein. Moi, c'était la cité où le marchand de glace, il arrivait en Renault Estafette.
Mais vous l'avez connu ?
Bah oui. Le gars klaxonnait comme s'il livrait un rein. Et nous, je te jure, on courait à 50 derrière lui. C'était pas pour manger, hein. Non, nous, on arrivait à le rattraper. C'était même pas pour manger une glace, c'est juste pour regarder les autres manger une glace. Je te jure, moi, j'étais là. Ah ouais, la glace à la pistache, c'est la meilleure. J'en avais jamais mangé. À l'école, vous dites être rentré à la maternelle sans parler un mot français. Moi, pareil. Jusqu'à mes 13 ans, je croyais que l'huile d'olive, ça se disait zitzitoun. C'est pour vous dire à quel point j'étais perdu. Alors, merci Nora, merci, parce que ton livre m'a rappelé que la banlieue, c'est pas une erreur, c'est une école. Et qu'entre entre une fille de Longjumeau qui écrit pour Flammarion et un mec de Champigny qui écrit sur France Inter, il n'y a qu'un mur de HLM d'écart, avec écrit dessus « Qui a pris mon yaourt ?»
Merci beaucoup Ahmed Sparrow. On vous retrouve la semaine prochaine, évidemment, dans Zoom Zoom Zen. Merci Nora Amadi. Je rappelle votre livre autobiographique « La maison des rêves » publié chez Flammarion. Mais vraiment,
merci à vous.
Un livre à découvrir. Je crois qu'Ahmed l'a lu, en tout cas. Ça vous a plu ?
J'ai lu une bonne partie.
Une bonne partie, ce qui vous a servi à écrire vos vannes, en tout cas.
Exactement.
L'essentiel. Merci à tous les amis. Manon, Quentin, Cyril, merci à tous ceux qui nous aident à préparer cette émission. Claire-Sophie Collet, Florence Gimalac, Pierre Courade, Pénélope de la Péchardière, Jade Bellag et Gérald Darnaud. À la réalisation, c'était Étienne Bertin. À la technique, Guillaume Roux. Demain, on zoomera sur une expression devenue une insulte beaucoup plus large que son sens initial. Les cassos, qui sont-ils ? Qu'est-ce que cette expression dit de celui qui l'emploie, surtout ? Essentiellement qu'elle est snob et parisienne, comme Manon quand elle parle de Quentin. Mais c'est une histoire qu'on verra demain.
Jamais. Zoom Zoom Zen.